et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut Robin, ça va?
Salut Darina, ça va et toi?
Ouais, super, merci de venir au micro de Amcamgram.
Avec plaisir.
Alors toi Robin, tu es responsable au grand compte depuis plus d'un an chez Castalie, dont la mission c'est de supprimer les bouteilles en plastique en proposant des fontaines à eau microfiltrées à destination des professionnels.
Exactement.
Aujourd'hui, on va mettre de côté les entreprises SaaS pour comprendre le métier d'account manager chez Castalie. Et d'ailleurs, je remarque que ton intitulé de poste, qui est donc responsable au grand compte, est un intitulé en français, donc ça fait du bien. Et j'étais en train de me demander si c'était pas l'apanage des startups, SaaS, d'avoir des intitulés en anglais à tout va. Donc j'ai hâte d'avoir ton point de vue là-dessus. Et en parallèle de ton métier, je constate que tu es plutôt très sensibilisée à la lutte contre le gaspillage alimentaire et contre le plastique. Et j'ai hâte que tu nous dises comment tu fais passer ce message aussi auprès de tes clients. Et en disant ça, je fais écho au débat que j'avais enregistré avec Marie de Petit Bambou et avec Constance de chez Too Good To Go sur la question de est-il possible de conjuguer business et valeur. Donc j'ai hâte aussi d'avoir ton point de vue à ce sujet. Mais avant de commencer, veux-tu me dire, Robin, quel est ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Alors écoute, en ce moment, j'aime bien me faire, pour rester au chaud, un petit gratin chou-fleur butternut avec des bons produits locaux et de saison. Et la clé du succès surtout, c'est beaucoup de fromage sur le dessus.
Donc tu veux dire que tu dis que c'est un gratin de légumes, mais en fait, il y a plus de fromage que de légumes.
Souvent, c'est le cas, oui.
On est d'accord. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. À présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
Ok, donc moi c'est Robin, j'ai 30 ans et je suis responsable grand compte chez Castalie depuis un an maintenant. Je suis passé par une école de commerce d'abord et ensuite j'ai eu pas mal d'expérience dans la grande distribution en commençant d'abord en apprentissage chez Auchan, puis avec différents stages, que ce soit chez Lindt ou chez Mondelez. Ensuite j'ai fait mes premiers pas dans le monde du travail en CDI chez Danone et j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là qui m'a fait finalement partir chez Comerso. Comerso, c'est toujours dans la grande distribution, mais c'est une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire en revalorisant les invendus des grandes surfaces. Donc ça, j'y ai fait 3 ans. C'était vraiment une super expérience, on aura l'occasion d'y reparler. Et ensuite, je suis arrivé donc chez Castalie pour changer de cause finalement. On ne lutte plus contre le gaspillage alimentaire, mais contre le gaspillage du plastique à usage unique, mais toujours avec ce fil rouge d'entreprise à mission pour répondre aux enjeux du monde actuel.
Top. Est-ce que tu as des passions?
Écoute, j'ai un passé glorieux de mes 10 à 16 ans de tennisman que j'essaye de maintenir, mais ouais, j'essaye de jouer dès que possible au tennis.
Top. Bon, bah, c'est très, très sportif tout ça. Hâte que tu nous en parles. Pour démarrer, est-ce que tu peux me décrire la structure business chez Castalie?
Bien sûr. Donc en fait, chez Castalie, c'est vraiment séparé en deux pôles, on va dire. Le pôle CHR, donc café, hôtel, restaurant, et le pôle entreprise. Puisque historiquement, Castalie, à ses débuts, il y a 9 ans, en 2011, a commencé à fournir des fontaines plutôt aux restaurants et aux hôtels qui souhaitaient en fait supprimer les bouteilles consignées qui faisait finalement des milliers de kilomètres aller-retour pour être bu à très très loin du lieu d'embouteillage. Donc ça n'avait pas beaucoup de sens non plus pour eux. Et on a ensuite agrandi l'activité aux entreprises qui veulent là supprimer plutôt les bouteilles plastiques de leurs bureaux et de leurs locaux. Donc on divise l'entreprise comme ça. Et ensuite au sein des entreprises, la partie dans laquelle je travaille, on divise ensuite les marchés en tant que grand compte ou PME. Puisque la gestion commerciale n'est pas forcément la même, les clients non plus. Et moi, donc, je fais partie de la partie grand compte, c'est-à-dire des entreprises de plus de 250 salariés.
D'accord, ok, ouais, très clair. Et alors, en quoi consiste concrètement ton poste de responsable grand compte chez Castalie? Et la petite question bonus, ouais, sur l'intitulé en français, ça fait du bien. Je ne sais pas si toi, tu avais eu d'autres propositions avec des postes de Key Account Manager.
Ouais, effectivement, ça c'est un petit peu le virage de tout en anglais là, qui peut se prendre avec certaines startups. Écoute, j'ai pas d'avis sur la question. Je sais que Castelli, nous, on est très attachés au Made in France, que ce soit dans notre philosophie ou dans nos fontaines. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que le poste en français a plus de sens pour moi. En tout cas, je m'y retrouve très bien. Du côté des missions, je dirais que on est une boîte quand même qui a grandi très vite et qui s'est structurée, mais avec un esprit startup encore très fort. Ce qui fait qu'on a une très grande polyvalence, je trouve, sur le responsable de compte. On fait aussi bien de la prospection, que ce soit LinkedIn, mail, téléphonique, voire physique parfois, quand ça s'y prête, que de la gestion de compte existant, donc de l'élevage. Et après, du coup, en tant que responsable de compte, de grand compte, pardon, on va vraiment être responsable de faire donc de la prospection sur des nouveaux comptes, de l'upsell sur les comptes existants, du suivi de projet. Je trouve que c'est très varié et très complet, du coup.
Oui, complètement. Et tu gères combien de comptes existants et tu dois en chasser combien? Enfin, je veux dire, je me rends pas vraiment compte du volume et est-ce que tu as des collègues qui font la même chose que toi pour absorber ce volume aussi?
Ouais, en fait, dans l'équipe Grand Compte, on est 6 commerciaux, donc 2 managers et 4 commerciaux comme moi. Et après, en termes de nombre de comptes, je ne l'ai pas exactement sous les yeux, mais je dirais que j'en gère à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 clients. Après, on a beaucoup plus de comptes prospects, évidemment, qu'on cible. Mais après, voilà, il y a des comptes qui demandent plus ou moins d'investissement, ça dépend de la taille du groupe. Nous, forcément, dans les grands comptes, tout l'enjeu qu'on a, c'est une fois qu'on a mis le pied dans la porte et qu'on est dans une filiale du compte, par exemple, c'est de redescendre toutes les autres filiales. Donc ça peut prendre aussi beaucoup de temps si on se concentre sur un compte en particulier.
Ouais, parce qu'en fait, tu dis 15 à 20 comptes, mais derrière un seul de ces 15-là, tu as potentiellement plusieurs business units à aller chasser, quoi.
Exactement. Typiquement, on vient d'arriver chez Thales récemment. Le groupe Thales considère que c'est un compte. Maintenant, entre les filiales, les différents sites d'une même filiale et tout ça, il y a tellement de travail, le terrain de jeu est immense.
Et comment est-ce que tu vas organiser ton temps entre prospection d'une entreprise que vous n'avez pas du tout en client, prospection dans d'autres business units ou gestion de compte pure?
Écoute, ça va pas mal dépendre du flux d'entrants aussi qu'on a chez Castelli. On avait la chance, forcément ça a changé un petit peu avec la pandémie et le confinement, mais on avait la chance Castelli d'avoir un flux entrant assez conséquent, ce qui fait que vraiment la plus grande partie de mon temps avant mars 2020, c'était plutôt justement de la gestion de compte, du suivi de projet et assez peu de prospection dans le dur, on va dire. Maintenant, forcément, l'activité a changé un petit peu de rythme et on doit en faire un peu plus pour assurer le bon rythme de Castelli. Donc, je dirais que oui, c'est en fonction de ce qui rentre et ensuite en fonction de ce qu'on arrive à faire avec des comptes quand on sent que le client est prêt, que les mentalités sont prêtes pour la suppression du plastique. On a la chance chez Castelli de répondre à un besoin très actuel des entreprises de RSE forcément et d'engagement sociétal. Donc on a la chance d'avoir pas mal de demandes entrantes et en fonction du secteur qui va plus ou moins se réveiller sur ce sujet-là, on va accentuer nos efforts soit sur de la prospection d'un nouveau secteur qui est en demande, soit sur une entreprise qu'on connaît déjà et qu'on va essayer de creuser.
D'accord, ouais, je comprends bien. Et tu parlais tout à l'heure d'entreprise à impact. Donc, si je comprends bien, toi, tu vas avoir une conviction à transmettre à tes clients pour que eux aussi essayent de faire mieux sur la suppression du plastique. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un peu plus?
Ouais, bien sûr. C'est vrai que chez Castelli, moi, je suis vraiment arrivé pour ça et je pense que la grande majorité des employés se retrouvent dans ces valeurs, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour une mission et un intérêt commun. C'est sûr que tous les clients ne sont pas dans la même optique que nous. Il y en a qui sont beaucoup plus concernés que d'autres. Mais notre rôle, ça va justement être de les faire adhérer à cette cause, de leur faire comprendre l'impact qu'ont les bouteilles plastiques, que ce soit pour leur image ou pour la planète, ça dépend de quelle est leur corde sensible, En tout cas, c'est hyper important pour nous, effectivement, de prendre un peu de hauteur, de pas forcément, je vais être un peu volontairement un peu provocateur, de pas vendre que de la fontaine à eau. Mais voilà, de parler un peu plus enjeu corporate, enjeu environnemental. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'on arrive à gagner des dossiers. C'est en leur montrant que Castelli, par rapport peut-être à d'autres marques de fontaine à eau, est plus engagé, est plus vertueux, et est vraiment force de proposition sur l'axe RSE qu'ils cherchent à développer, du coup.
Et sur la partie account management, est-ce que tu as, par exemple, des entreprises qui étaient rentrées par rapport à peut-être une problématique de faire des économies et qui finalement tendent à se développer grâce à l'enjeu écologique? Tu vois, au début, ça rentrait par, on va dire, un canal plus financier et puis ça débouche sur plus un enjeu à impact global.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça dépend encore une fois de l'état du client, s'il est plus ou moins sensible à ça, mais souvent il reçoit des directives, voilà, dans ce sens. Et on accompagne aussi beaucoup les clients une fois que la fontaine est installée sur pas mal d'indicateurs RSE, sur l'économie en termes de bouteilles plastiques, d'empreintes carbone que Castelli leur permet de faire. Si on compare ça à des bouteilles plastiques ou à des fontaines un peu moins vertueuses. Donc absolument, ça c'est quelque chose qu'on pousse chez les clients et on essaye de réveiller un peu ça chez eux.
Et en fin de compte, quels sont tes KPI? Est-ce que ça dépend de ces fameux indicateurs chez tes clients?
Alors mes KPI, ça va plutôt être forcément, hein, le nombre de machines qu'on arrive à vendre. Je vais aussi être regardé sur une espèce de rigueur administrative, la maîtrise des outils internes pour structurer la partie grand compte. Ça, c'est très important, peut-être plus que sur d'autres branches de Castelli, pour vraiment gérer au mieux les comptes et ne pas perdre d'informations en route. J'ai du coup aussi un objectif d'ouverture de nouveaux comptes, puisque comme tu l'as compris, l'enjeu, c'est aussi de mettre le pied dans la porte pour ensuite convertir en fait les filiales de tout un groupe au zéro plastique. Et il y a aussi des indicateurs de satisfaction client et de recommandation forcément, surtout entre les filiales d'un même groupe, qui sont très importantes. Et donc moi, mon but, ça va aussi de vraiment faire beaucoup de suivi une fois que la fontaine est installée et que le contrat est signé, pour voir s'il n'y a pas d'autres opportunités dans le groupe, et surtout de voir, en fait, un peu vulgairement, de chasser le plastique là où le client ne s'en rend pas forcément compte, ou alors il n'a pas forcément l'info, parce que dans les grands groupes, souvent l'information a du mal à passer. Et c'est mon rôle d'aller creuser ça, justement.
Et pour aller le creuser, tu fais comment? Tu vas aller sur le terrain?
On essayait avant la pandémie, là c'est plus compliqué, mais oui, le plus simple, c'est quand même d'aller voir les habitudes, en fait, de consommation des entreprises. De se rendre compte concrètement de qui gère ça, combien ça leur coûte, de vraiment détailler toute la chaîne entre soit les contraintes techniques, logistiques de s'approvisionner en bouteilles plastiques. Et en fait, ouais, sur le terrain, on se rend beaucoup mieux compte de ça et on est plus impactant dans notre discours ensuite, quoi.
Tu parlais tout à l'heure de structuration interne de l'équipe Grand Compte. Ça se traduit comment? Est-ce que avec tes 6 autres collègues, vous êtes répartis par verticale de compte? Comment ça se passe?
En fait, si tu veux, on est plutôt répartis par marché, par type d'entreprise, par secteur. Ce qui fait que moi, par exemple, je vais m'occuper du secteur du coworking, du secteur des grands cabinets de conseil ou des agences de com ou agences médias. D'autres vont plutôt prendre la partie luxe, par exemple, qui est aussi un très très gros marché chez Castelli. Donc avec des entreprises comme LVMH, Kering, Balenciaga, des choses comme ça. D'autres vont plutôt s'occuper de la partie immobilier ou banque, qui ont aussi une grosse demande en termes de RSE et avec lesquelles on peut travailler. Donc c'est plutôt, ouais, par secteur, je dirais, d'activité.
Et concernant tes secteurs, donc si je reprends coworking, conseil et agence, c'est quoi les spécificités de ces clients-là?
Écoute, sur les coworking, on a affaire du coup à une espèce d'immobilier ultra flexible, assez récent. Donc c'est un secteur en pleine expansion, c'est assez dingue le nombre d'acteurs qui y a sur ce marché. Et on vient du coup répondre à un besoin de bien-être des collaborateurs et des entreprises qui vont héberger. Et on aide vraiment les coworking, on va dire un peu engagés, un peu haut de gamme, à se démarquer avec des fontaines, mais aussi des contenants personnalisables, que ce soit des gourdes, des bouteilles, au logo de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'ils viennent chercher, je pense. En termes des cabinets de conseil, on va aussi être sur un enjeu d'image de marque, vis-à-vis soit des rendez-vous externes, soit de leurs collaborateurs en interne. C'est vrai qu'on a une fontaine, objectivement, qui est hyper design, qui est très jolie, qui s'intègre très très bien dans des espaces de direction ou dans des clubs, par exemple, et dans des entreprises comme ça qui reçoivent beaucoup ou pour laquelle l'image est très importante. Ça correspond aussi à une demande qu'ils ont. Ouais.
Et dans tes KPI, donc tu nous as parlé d'upsell pour aller chercher des filiales, enfin, ou de cross-sell, je ne sais pas comment tu l'appelles, et tu parlais aussi de co-construire des produits un peu goodies, tu parlais de gourdes, de bouteilles, ça fait partie aussi des objectifs que tu as en tant qu'account manager, d'aller chasser sur des nouveaux produits annexes un petit peu.
Ouais, bien sûr. Alors, on n'aime pas forcément trop le terme de goodies chez Castalis, parce que parfois c'est un côté un peu péjoratif et un peu éphémère. Mais en tout cas, oui, nos gourdes et nos bouteilles, c'est quelque chose qui est dans une offre un peu 360. Le client, parfois, en a déjà. Parfois, il s'est déjà équipé de gourdes avant de prendre des fontaines, par exemple, pour faire une espèce de welcome kit pour ses collaborateurs. Parfois, il a des besoins. Donc, oui, c'est notre job d'aller sonder un petit peu tout ça et en fonction de où il en est dans sa transition. Zéro plastique, de lui proposer les meilleurs produits. Ouais.
Trop bien. Et comment est-ce que tu présentes tout ça? Est-ce que tu vas faire des campagnes d'évangélisation? Je ne sais pas quels sont toi les moyens que tu utilises dans ta relation avec tes clients, au-delà du one-to-one. Est-ce que, je sais pas, tu as des webinaires pour sensibiliser au zéro plastique? Comment est-ce que toi tu t'intègres dans cette démarche plus globale?
Ouais, effectivement, on fait pas mal de. Alors, avant, on faisait des salons dans l'ancien monde. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais oui, on fait beaucoup d'événements, de webinars, comme tu dis. On participe à des tables rondes. On essaie de se montrer le plus possible aux côtés, justement, d'autres boîtes vertueuses et bonnes pour l'environnement. Et après, on fait pas mal de campagnes avec le service marketing, justement, d'acquisition, sur soit un grand groupe qu'on va cibler avec tout simplement du mailing ou du LinkedIn, par exemple, qui marche aussi assez bien. Il y a plusieurs canaux réellement. Forcément, le plus efficace et le plus impactant, c'est de se voir en physique dans des événements. C'est là qu'on avait beaucoup, beaucoup de retours. Mais même à l'heure du digital et à l'heure du Covid, je pense que oui, on arrive avec des bonnes campagnes à acquérir des nouvelles pistes comme ça. Ouais.
Si je fais le focus sur la partie account management, comment est-ce que tu vas gérer ta relation avec tes 15-20 principaux clients? Est-ce que tu vas avoir des touchpoints à fréquence régulière avec eux et de quelle manière?
Écoute, je dirais que mon rythme de relation avec mes clients, il est assez variable. Ça va vraiment dépendre des projets qu'ils ont, de leurs demandes aussi, hein, parce que parfois, voilà, on va équiper un client donné et puis après, on sait bien qu'on a fait le tour en fait du bâtiment, tout simplement. Certains vont par contre avoir des projets de déménagement, des projets immobiliers. Ça, c'est hyper important pour nous, parce que c'est là-dedans qu'on va justement arriver à la base d'un projet et pouvoir implanter des fontaines. Aux meilleurs endroits et de manière stratégique pour que tous les collaborateurs puissent en bénéficier. On va revenir peut-être un peu après, mais on a aussi un gros rôle de changement des mentalités, que ce soit sur. On supprime les bouteilles, donc forcément, il y a un côté un peu confort qui va être perdu pour les collaborateurs, en tout cas en perception, parce que les gens aiment bien avoir leur petite bouteille perso sur le bureau en plastique tous les matins. Et finalement, de les accompagner sur une transition zéro plastique un peu long terme, c'est quelque chose qui demande du réseautage, du suivi de projet régulier. Après, en termes de fréquence, c'est encore une fois très variable. En moyenne, je dirais oui, tous les 3 mois, on peut faire un point avec eux, mais ça peut prendre plusieurs formes.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que toi, en tant qu'account manager, tu peux pas être derrière chaque collaborateur en mode interdiction d'avoir ta bouteille sur ton bureau. Du coup, tu as des
Exactement.
sponsors en interne, c'est l'office manager.
Alors ouais, souvent nos sponsors, comme tu dis, nos prescripteurs vont être les office managers, les responsables RSE, parfois les responsables des ressources humaines, qui vont porter ce projet en interne. Et nous, en fait, on va leur mettre à disposition le plus d'outils possible pour effectivement que la fontaine soit utilisée au maximum. Parce qu'on est conscient qu'après, oui, il y a des dérives, chaque employé n'a pas le même engagement. Et donc on va avoir des supports de com, on va avoir des communications croisées où on va s'afficher auprès des entreprises qui le souhaitent sur des réseaux sociaux, par exemple, pour vraiment encourager tous les collaborateurs à prendre ce pas-là, quoi.
Et ça, c'est des communications qui sont faites par, j'imagine, le département marketing de Castalie et que toi, tu te charges de relayer auprès de tes clients.
Exactement. Moi, j'ai vraiment un rôle là-dessus de mise en relation et de comment dire, retranscrire le besoin de mon client auprès du service marketing com et ensuite de coordonner un peu tout ça. Mais on a effectivement plein de supports sur de la communication, comme je l'ai dit, soit de tonnes carbone économisées, soit de bouteilles plastiques économisées. Enfin voilà, de choses qui peuvent vraiment avoir un impact auprès des collaborateurs et sensibiliser au-delà de c'est cool, il n'y a plus de plastique. Ok, mais on se parle de combien? Quel impact ça a? Depuis quand on est sur ce combat-là? Et depuis 2 ans, par exemple, on a fait telle économie. C'est des choses qui parlent quand même concrètement, quoi.
Tu utilises quoi comme outil pour générer ces rapports?
Tu me poses une colle. Je n'ai pas forcément d'outils en tête.
Enfin, est-ce que vous utilisez un logiciel CRM?
Alors oui, non, par contre, oui, on a un CRM qui s'appelle Odoo, en l'occurrence. Je pensais plutôt à la communication marketing dont tu me parlais. Donc,
Ah non, non, enfin oui, le nombre de plastiques. Économiser et tout ça c'est pas toi qui fais les calculs, j'imagine.
Non, là, pour le coup, on a des estimations qu'on reporte en fonction de ce qu'avait le client avant nous et de ce qu'on lui a apporté. Mais donc, en tout cas, oui, pour gérer la relation client, on a ce CRM qui est très complet. Et qui nous permet de garder une trace évidemment de tout ce qu'on peut faire avec les clients, de le dupliquer quand c'est nécessaire. C'est hyper important, ouais, de bien garder une trace dans les grands groupes en plus dans lesquels je m'occupe. C'est vraiment important de savoir ce qu'on a proposé à telle ou telle filiale, parce que forcément ils vont se parler entre eux, donc c'est primordial d'avoir un bon suivi pour ça, quoi.
Top. Bah écoute, maintenant je te propose de passer à la partie retour d'expérience, à commencer par une anecdote gratinée.
Écoute, j'y ai pas mal réfléchi et j'ai repensé à un moment assez assez marrant. En fait, donc après le confinement où beaucoup de nos clients étaient fermés finalement, on a dû remettre en route un très très grand nombre de machines et faire l'entretien en fait de changement de filtre de nos machines sur quasiment tout le parc. Nos seuls techniciens qui le font en temps normal n'auraient jamais eu le temps de tout faire en temps et en heure. Donc en fait, toute l'équipe commerciale s'est mise en renfort sur des grands parcs de clients pour faire justement cet entretien de machine qu'en général on ne fait pas. Et ça a amené en fait déjà à aller chez le client et à rester au contact du terrain. Donc ça, c'était une très bonne chose. Et ensuite, moi, je me suis retrouvé du coup assigné chez Kering, qui est un gros client Castelli, et à finalement faire l'entretien des machines dans le bureau du président. Donc c'était assez sympa de voir un peu les coulisses de ce grand groupe qu'on connaît par plein de marques hyper médiatiques. Et c'était un peu sympa de voir voilà les super bureaux qu'ils ont, notamment rue de Sèvres. Donc ça, c'était vraiment chouette.
Alors, est-ce que tu t'es ramené avec la combinaison et la casquette et la mallette?
Alors, on avait effectivement ouais, le seau, la mallette, les gants. Enfin, c'était un peu roots. Alors, les locaux étaient quasiment vides parce que forcément, c'était à la toute reprise du déconfinement. Mais ouais, c'était chouette d'être dans des locaux aussi prestigieux, quoi.
Tu m'étonnes. Bon, bah là, je pense que tu vas demander à ton collègue qui s'occupe du luxe de te filer une partie de son
C'est
portefeuille.
ça.
Top. Et quelle est la situation la plus compliquée que tu aies eu à expérimenter au cours de ton métier?
Écoute, on en a un petit peu parlé, mais je pense que le plus compliqué, c'est. Alors, c'était vrai pour Commerceau ou pour Castalie, c'est le changement des mentalités et l'accompagnement au changement, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive chez les clients, quelle que soit la raison pour laquelle ils nous contactent ou alors la raison pour laquelle on les a contactés, qui sont pas forcément alignés avec nos valeurs ou avec nos idées. Et faut vraiment trouver le bon angle pour les convaincre, pour les faire changer d'avis. Par exemple, on en parlait, mais voilà, moi j'ai ma bouteille plastique tous les matins, ça me va très bien, c'est mon confort. Je veux pas aller à une fontaine qui se trouve à 10 mètres dans l'open space d'à côté pour remplir ma gourde, tu vois. Et ça, pour chaque client, ça va être des arguments différents, un rythme différent de négociation, et c'est hyper intéressant, mais c'est parfois là qu'on se trouve devant un mur avec des personnes qui sont pas forcément de la même dynamique que nous. Mais c'est ce qui rend justement le job intéressant, c'est que Le fait d'être dans une entreprise à mission, on a cette vocation-là et on est tellement fiers quand on y arrive que c'est réjouissant. Ouais.
Et en période de pandémie, est-ce qu'il n'y a pas des clients, alors moins matures sur ce sujet, qui se disent que bah, c'est limite un luxe en fait de pouvoir se payer une fontaine à eau microfiltrée?
Si, si, certains.
Dans le sens, c'est pas la priorité, tu vois, c'est ça que j'essaie de
Bien
dire.
sûr, si, si, oui, certains ont cette démarche-là. Après, on respecte aussi voilà, le rythme de chacun, les budgets de chacun. On sait que c'est compliqué pour beaucoup de monde en ce moment. Et c'est pas pour ça que Castellier est à l'arrêt, mais on sent qu'il y a certains secteurs évidemment plus touchés que d'autres. Bon, la restauration, on n'en parle même pas, mais on accompagne dans ce cas-là les prospects en disant bah, bien sûr, enfin, prenez votre temps, ou alors comment on pourrait vous aider pour installer ça au mieux, peut-être par étapes. Donc oui, c'est sûr que c'est un luxe pour certaines entreprises. Maintenant, la suppression du plastique est de plus en plus nécessaire et on arrive souvent à point nommé pour pas mal d'entreprises qui cherchent ça absolument, quoi.
Et puis, il y a des entreprises déjà clientes chez Castalie qui doivent être assez fières quand même d'avoir été précurseurs finalement.
Bien sûr, ah ouais, de nos clients entreprises qui ont démarré il y a 4 ou 5 ans maintenant. Bah c'est avec eux qu'on communique le mieux, effectivement, ils sont hyper fiers. Et leurs collaborateurs, finalement, se sont tellement habitués à ce luxe, comme tu dis, d'avoir de l'eau microfiltrée, plate, pétillante, des super contenants à leur image, que oui, ils sont très contents et c'est eux qui nous portent le plus de recommandations, ensuite.
Un exemple de success story?
Écoute, depuis mon année sur mes comptes, je suis encore assez récent, mais je dirais oui. Écoute, chez Thales par exemple, qu'on vient de signer, en quelques mois à peine, on a réussi à avoir plusieurs filiales qui se recommandaient les unes les autres, avec un niveau de satisfaction très fort, avec justement des bouteilles personnalisées. Donc en fait, quand l'entreprise s'approprie vachement notre produit. Et vend le projet en interne, c'est là qu'on a gagné parce que du coup ils sont vraiment convertis, ils sont fiers comme tu dis d'avoir ça et on peut envisager l'avenir que d'une bonne manière dans ce cas-là.
Top. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré ce métier?
Alors je n'ai pas forcément trouvé qu'on ne m'ait pas donné. J'ai été bien entouré, j'ai eu la chance d'avoir des bons managers. En tout cas, ce que je garde en fil rouge, moi, c'est plutôt le fait de ne jamais anticiper les objections du client. Alors, évidemment, il faut les préparer, mais dans le sens où il ne faut pas se mettre de barrière et pas mettre de client dans les cases en me disant, bah, OK, ça fait 3 fois qu'on me dit que c'est trop cher, donc je pense que lui, il va penser que c'est trop cher aussi. Ça, c'est vraiment une dérive que je pouvais avoir peut-être au début et que j'essaie de ne plus avoir du tout. C'est de rester hyper ouvert, de le laisser venir. Et de ne pas me dire que, OK, forcément, la directrice RSE, elle va être concernée par le plastique, que les services généraux, ils vont regarder d'abord le côté pratique. Et bien, ça dépend. On peut tomber sur des personnes surprenantes. Chacun a ses propres valeurs aussi. Et donc, voilà, le fait de ne pas se mettre de barrière, pas se fermer de porte et rester le plus optimiste possible, je trouve que c'est hyper important.
En conclusion, comment va évoluer le métier d'account manager dans quelques années selon toi?
C'est une bonne question. J'ai pas vraiment d'éléments de réponse précisément. Je pense qu'on est quand même en train de manière générale, et c'est valable aussi pour le métier de compte manager, de multiplier le nombre de données qu'on a, qu'on collecte, qu'on analyse. Pour reprendre juste l'exemple de Castelli, on a sorti déjà, on est en train de déployer des machines connectées avec forcément des cartes qui permettent d'évaluer la consommation, de réparer des machines à distance, de faire des reportings très précis en temps réel. Et je pense qu'on va être amené, oui, en tant qu'account manager, à gérer de plus en plus de données, je pense, au service de nos clients, comment dire, à trouver des nouveaux modèles de reporting ou des nouveaux modèles, ouais, de communication à avoir avec eux grâce à ces données, en fait.
Oui, très clair. Et j'ai une petite question bonus. Là, chez Castalie, toi, en tant que responsable grand compte, donc on a bien compris, tu as une double casquette à la fois acquisition et fidélisation. Est-ce que tu penses qu'à terme, si l'équipe continue de grossir, vous serez amené à segmenter ces rôles? Et qu'est-ce qui est le mieux selon toi entre les deux formules?
Alors oui, je sais qu'on y réfléchit et qu'évidemment, plus on grandit, plus il est intéressant et et productif de segmenter quand même les missions. Je ne sais pas ce qui est le mieux, je peux te dire moi ce que je préfère en tout cas. Je trouve ça effectivement assez enrichissant de gérer des comptes existants et d'avoir des suivis de projets avec tes clients. C'est là que tu noues vraiment des relations intéressantes et que tu dépasses souvent la négociation un peu commerciale pure et dure. Donc si jamais ça vient à s'augmenter, je pense que je prendrais plutôt cette partie-là. Ouais.
Donc plus la partie account management où tu vas récupérer le compte au jour 1 et que tu vas vraiment faire de sa vie un projet, quoi, finalement, sa vie de client un projet.
Je pense. Même si je trouve aussi beaucoup de satisfaction à justement démarrer un compte et l'ouvrir, c'est une fierté énorme.
Bien
Mais
sûr.
oui, c'est sûr que cette partie-là, je trouve, est plus stimulante.
Ok, ouais, hyper intéressant. Bah, merci beaucoup, Robin. Je termine avec ma question rituelle qui est: quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton quotidien et pourquoi?
Écoute, j'ai réfléchi aussi et je voulais mettre en parallèle ce que je fais chez Castelli avec le film Demain, qui, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était il y a quelques années, c'est sorti, c'est Cyril Dion qui a fait ce film avec Mélanie Laurent. C'est un film donc, qui parle de plein d'initiatives autour de la planète sur bah, justement le changement de modèle, sur changer le récit commun. Qu'on a développé globalement avec le modèle capitaliste, et de dire que aujourd'hui, bon nombre de défis que la planète a à relever et que les hommes ont à relever, bah, il y a des solutions qui existent, il y a des bonnes choses déjà existantes, et on se nourrit de ça, on s'inspire de ça en fait. Et que ce soit avec Commerso ou Castelli, je trouve que bah, c'est vraiment c'est ça qui nous nourrit, quoi. C'est de se dire. On fait quelque chose, on travaille, on gagne de l'argent, très bien, mais pourquoi faire finalement? Et d'avoir une entreprise à mission et de voir dans ce film demain autant d'initiatives qui se montent et qui marchent surtout. C'est pas juste des projets, c'est pas juste des idées, ça c'est hyper gratifiant, quoi.
Ouais, savoir pourquoi est-ce que tu te lèves le matin et avoir du sens dans ton quotidien finalement.
Bien sûr, c'est très à la mode et malheureusement certaines personnes ou certaines boîtes galvaudent cette quête de sens que maintenant tout le monde revendique, mais enfin, faut pas que ça vienne galvauder, au contraire, pour moi, c'est la base et tout le monde devrait, dans un monde idéal, être guidé par ça, quoi.
Ok, bah merci beaucoup Robin, très, très intéressant tout ça. Ça me donne envie d'aller boire.
Avec plaisir.
Bon bah moi j'ai pas encore le plaisir d'avoir une fontaine Castalie, mais je sais pas, vous le faites pas pour les particuliers, on est d'accord.
Écoute, c'est un projet qui est dans les tuyaux.
Ah
Si tu veux une exclusivité.
ouais, carrément.
Alors, globalement, oui, on a fait une levée de fonds il n'y a pas longtemps, juste avant le confinement en l'occurrence. Et le B2C est dans nos projets. Maintenant, dans le futur très proche, si tu passes à Essilly-Moulineaux, je serais ravi de t'offrir un petit verre d'eau pétillante au bureau.
Ah, merci beaucoup. Ça, c'est le privilège du podcasteur, tu vois. Mais vraiment, merci beaucoup d'être venu au micro, Robin. Ça me fait très plaisir. Et bah, je te dis à très vite.
Merci à toi, à bientôt. Bye.